Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Le Fil Bleu est un festival d'événements qui se dérouleront du 4 avril au 1er juin autour du pastel et de l'indigo. Nous recevons aujourd'hui une spécialiste de l'indigo japonais. C'est une spécialité très pointue pour les personnes non initiées dont je fais partie. Marie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférence dans le département langues étrangères, section japonais à l'université Jean Jaurès à Toulouse, et vous êtes spécialiste de l'histoire de la couleur au Japon. Alors, quand on dit l'histoire de la couleur, moi je pense évidemment au kimono, je pense qu'il n'y a pas que le bleu. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler du bleu. Et vous avez écrit d'ailleurs les couleurs de l'arc-en-ciel dans le Japon de l'époque des Edo.
Hein, c'est absolument ça, oui, c'est ça, oui.
Voilà, et des articles, et vous avez participé à des colloques et des conférences, etc. Et donc, vous êtes bien la même, et je pense que c'est Chantal Tout-le-Monde qui m'a donné, qui m'a proposé votre nom, et j'étais ravie d'avoir affaire à une spécialiste, parce que j'ai plein de questions à vous poser, en fait. Vous faites déjà partie du comité scientifique qui a conçu le contenu de cette exposition Fil Bleu, en particulier à l'hôtel Rennes, si j'ai bien compris.
Oui, absolument. C'est ça, à l'hôtel Rennes, dont Rennes, je me suis occupée avec d'autres collègues de la constitution de cartel, c'est-à-dire de panneaux explicatifs sur la partie japonaise, notamment, et je parle un petit peu de moi, mais je me suis occupée de l'histoire de l'indigo dans le vêtement, au Japon, en particulier dans le vêtement, c'est-à-dire sous forme de teinture.
D'accord, alors on va en parler. Oui, alors c'est vrai que chaque fois je dis l'indigo qui a détrôné le pastel dans nos régions. Pastel dont il sera parlé d'ailleurs ultérieurement au cours des événements du Fil Bleu. Alors cette rivalité indigo-pastel, vous avez une explication, vous ?
Alors en réalité au Japon elle n'a pas lieu d'être.
Non.
Non, en fait, lorsqu'on parle d'indigo, on parle d'une plante qui s'appelle, je vais utiliser peut-être beaucoup de mots japonais, du tadeai, qui est la renouée des teinturiers. Mais le pastel, il est circonscrit à l'île qui se trouve tout au nord du Japon, qu'on appelle Hokkaido, et qui reste circonscrite à cette île. Donc, il n'y aura jamais de bataille entre l'indigo, la renouée, et le pastel à proprement parler. Et en termes de plantes, plus que j'ici, qui permettent de colorer en bleu au Japon, on va trouver ce qu'on appelle le yamai, littéralement l'indigo des montagnes, l'indigo sauvage, qui en fait ne contient pas d'indigotine, mais qui va quand même colorer en bleu et qui va se faire supplanter par la renouée des teinturiers lors de son introduction au VIe siècle du continent. Et on trouve également une dernière plante. Alors là, on est à l'extrême sud. Donc on passe de l'extrême nord de Hokkaido à l'extrême sud. C'est l'archipel des Ryukyu qui part du sud du Japon jusqu'à Taïwan, qui forme un arc, une sorte de banane. Et cet archipel des Ryukyu est parfois connu sous le nom d'Okinawa. Donc, il est souvent connu sous ce vocable-là.
C'est le lieu mythique.
Voilà, c'est le nom de l'île principale, en fait, de l'archipel des Ryukyu, qui en contient vraiment énormément. Et là-bas, est cultivé un type d'indigo particulier. En français, on parle de l'indigo de l'Assam. Et en japonais, de Ryukyu Ai, littéralement l'indigo des Ryukyu. Mais dans le centre du Japon, donc pas le Japon des marges, il s'agit du tadeai, c'est-à-dire de la renouée du teinturier exclusivement, pratiquement.
D'accord. Mais je pensais que l'indigotier était une plante chinoise, moi.
Absolument. C'est ça.
Oui.
Alors, elle s'est extrêmement bien établie au Japon et on croit d'ailleurs qu'il s'agit d'une plante endémique à l'archipel. Ce n'est pas le cas. C'est une plante qui est venue de Chine, du continent, vers les 6e siècle et qui s'y est très bien acclimatée et qui a eu un succès fou jusqu'à l'époque des deux dont on parlait en introduction.
Alors, vous avez parlé de Tokushima. Parce qu'apparemment, ce lieu est spécialement réputé.
Oui, c'est ça, absolument. Donc, lorsque l'indigo est introduit du continent vers le VIe siècle, il va être cultivé un petit peu partout au Japon, sauf aux marges, c'est-à-dire à l'extrême nord et à l'extrême sud.
Quand il fait trop froid ou trop chaud.
Voilà, c'est ça. Mais il va être cultivé un petit peu partout. Donc, on aura plein de régions, mais il va trouver un terrain très favorable dans l'île de Shikoku, donc qui est une grosse île du centre du Japon. Dans la région de Tokushima et dans une région encore plus circonscrite à l'intérieur de Tokushima, la région d'Awa.
Bon, et pourquoi ? C'est une histoire de climat, d'hydro...
De tout.
De tout.
C'est une histoire de tout. C'est-à-dire que, en réalité, cette région-là, la région d'Awa, était extrêmement pauvre. Et à cet endroit-là, il y a une rivière avec un delta extrêmement sablonneux qui n'est propice à aucune culture. Sauf que ce qu'on appelle un daimyo, c'est le seigneur de l'époque au XVIIe siècle, XVIe-XVIIe siècle, va décider d'y introduire l'indigo, donc le tadéaï, qui va beaucoup s'y plaire, donc pour des raisons géographiques, de terroir. Donc ça, c'est la première raison. Donc sur le plan climatique, c'était vraiment l'endroit idéal, visiblement. Et il y a une autre raison, c'est qu'à cette période-là, c'est-à-dire à l'époque d'Edo, entre les 17e et 19e siècles, on a, un système de fiefs. Et dans le fief de Tokushima, on va décider d'encourager la production d'indigo pour asseoir financièrement le fief.
C'est-à-dire que des seigneurs étaient intéressés par cette culture parce que ça leur apportait de l'argent.
Absolument. Oui. Il manquait toujours d'argent et ils se sont rendus compte que l'indigo était vraiment la poule aux œufs d'or.
Une question cependant, Marie. Avant l'indigo, comment est-ce qu'il teignait rien en bleu ?
Alors, j'ai parlé d'une espèce endémique, le Yamai, qui n'est pas vraiment, enfin qui ne contient pas d'indigotine et qui teignait
qui quand même est un colorant.
Qui est quand même resté cultivé un petit peu, mais c'était de manière un petit peu, ponctuelle. Il y avait une fleur, qui était utilisée, qu'on appelle Tsukigusa ou Tsuyugusa, et qu'on appelle Coméline en français, donc c'est un très joli nom.
Ça fait un peu pharmaceutique, hein, quand même.
Oh, moi j'aime bien. En plus, en japonais, Tsuyugusa,
c'est plus joli.
C'est l'herbe de rosée.
Ah, c'est
et très joli. Et ça, c'est l'herbe de la lune. Et en fait, c'est une...
Je préfère comme ça, oui.
Oui, bon, moi, je trouve ça joli en français aussi, la coméline. Et c'est une plante, on va utiliser ses pétales bleus et dont on va extraire un jus coloré, mais qui ne tient pas trop.
D'accord.
Et par la suite, servira comme, comme liquide pour faire des esquisses, par exemple, sur les kimonos qu'on voudra teindre. Voilà, c'est quelque chose qui part très facilement.
D'accord. Alors, moi, j'ai été étonnée. C'est que j'ai appris que, justement, l'indigo de Tokushima était honoré par le gouvernement japonais. Et il paraît que c'est devenu un patrimoine immatériel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. On disait, j'ai lu ça et je me suis dit, tiens, un patrimoine immatériel désigné par le gouvernement.
Oui, sans doute. Alors, bon, j'ignore quels sont les critères exactement, mais c'est... C'est un phénomène qui n'est pas spécialement propre au Japon. Hein. On trouve aussi ce genre de phénomène en France qui vise à conserver le maximum les techniques et puis les plantes.
Et protéger.
Absolument, c'est ça, oui. Avant que les techniques disparaissent.
Voilà. Oui. Alors, justement, cette coloration, elle était pour quel genre de vêtements, pour quel genre de personnes ?
Alors, c'est une vaste question.
Je vous remercie de me l'avoir posée.
C'est une très vaste question. En réalité, l'intérêt, le point fort de cette teinture est qu'elle va se trouver dans toutes les couches sociales, de l'Antiquité jusqu'à ce que j'appelle la période d'Edo, donc au XVIe et XVIIIe siècle. Et elle va passer de l'aristocratie, donc ça va être une couleur de l'aristocratie, qu'on va trouver dans des rangs de cour. En réalité, pendant l'Antiquité, on a un système hiérarchique et on va porter sur soi la couleur de son rang. Donc l'indigo est quand même une couleur valorisée puisque c'est la couleur d'un rang de cour, de la noblesse. Même si c'est le dernier, c'est quand même relativement valorisé. Par la suite, à la période médiévale, on a la société aristocratique qui s'effondre un petit peu et qui est supplantée par les guerriers, donc la classe militaire. Ces militaires, ils n'ont pas trop ces goûts aristocratiques, mais ils apprécient beaucoup le bleu. Donc le bleu très très foncé et aussi des rouges très très vifs. Par ailleurs, il s'agit de guerriers qui se battent vraiment constamment, donc ils n'ont pas tout le loisir de se laver, c'est-à-dire de choisir des couleurs un petit peu peut-être précieuses.
C'est moins salissant.
Voilà, absolument.
C'est le bleu aussi du travail.
Alors, c'est d'abord un bleu militaire, parce que
en France, on parlait du bleu de travail.
Oui, c'est une des caractéristiques, mais on a parlé aussi du bleu militaire, et c'est une teinture qui a des vertus avant tout médicinales.
Alors oui, quelles sont les vertus justement? Parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai vérifié un petit peu certaines choses. Et il a beaucoup de vertus, ce bleu indigo.
C'est ça, je ne sais pas où commencer, mais en fait, ce bleu indigo va permettre déjà à des vertus antibactériennes. Donc, si on songe aux guerriers qui portaient quand même une armure constamment et qui faisaient des chevauchées incessantes, bon, on imagine que c'était quand même confortable de porter ce genre de
oui, parce qu'il y a la tissu, chaleur, l'irritation
voilà.
des tissus.
Ça empêchait les mauvaises odeurs avec la sueur aussi. C'était antibactérien, ça repoussait les insectes. La vermine qui accompagne tous les campements et puis bon, les conditions pas très agréables.
Alors, est-ce que les animaux sauvages en avaient peur de cette odeur? Puis il y avait une odeur,
Je l'ignore. Oui. Mais quoi qu'on... Alors, on dit que, je n'ai pas vérifié, j'ai des doutes, mais que l'indigo aurait été utile contre des morsures d'insectes, voire de serpents.
Ah.
Et par extrapolation, je ne serais pas étonnée de trouver dans un texte ancien ce genre d'histoire d'indigo qui
compte,
repousserait.
Peut-être.
Voilà, ça peut exister. Hein.
Et alors, dernière question. J'ai lu qu'on disait que ça faisait fuir les mauvais esprits. Ah, ça.
Alors là, c'était plutôt le rouge qui était utilisé à cet effet.
Ah oui.
Oui, en réalité, l'indigo n'a pas de symbolique particulière. Et c'est l'une de ses caractéristiques et l'une de ses forces. Parce que j'ai parlé du passage de l'aristocratie, ensuite à la classe militaire. Oui. Et enfin, on va trouver cette couleur dans les couches populaires. Et d'accord. La population, à l'époque, c'était quand même les paysans. Hein.
Oui.
Alors, ils pouvaient parfois être très fortunés, mais... on a trouvé finalement l'indigo dans toutes les couches de la population au Japon, des aristocrates en passant par les guerriers et enfin la population. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une couleur qui est exclusive. Mmh. C'est-à-dire que les aristocrates pouvaient la porter et le peuple aussi.
D'accord. Voilà. Marie Parmentier, un grand merci. Et vous voyez, 12 minutes, ça passe très vite. Donc, si vous le voulez bien, on vous retrouve la semaine prochaine.
Oui.